Bonjour Daniel Obono.
Bonjour.
Éric Coquerel a estimé hier que la proposition de loi du groupe Liotte visant à abroger le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans était bien recevable. Ça n'est pas l'avis de la chef du gouvernement qui a estimé que cette démarche revenait à tromper les Français. Éric Coquerel s'est-il prononcé sur le texte comme président de la commission des finances de l'Assemblée ou comme député LFI ?
Il s'est prononcé comme président et d'ailleurs la présidente de l'Assemblée s'était aussi prononcée comme présidente puisque elle avait validé
au moment du dépôt de la proposition
la recevabilité du texte. Et on a vu au cours des dernières semaines un spectacle assez étonnant et assez grave, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui a mis la pression, ça a été rapporté par des médias, sur la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'elle change de positionnement. Et ça, c'est très grave. C'est ouvertement une manipulation, un tordage de main afin d'empêcher que le débat ait lieu à l'Assemblée nationale et que la représentation nationale puisse se prononcer sur ce texte que beaucoup de personnes attendent, que des millions de personnes attendent, qui se mobilisent depuis des mois contre la réforme des retraites.
La position de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a effectivement évolué. Aujourd'hui, elle estime elle aussi que la proposition de loi du groupe Liotte n'est pas recevable. Tout semble fait désormais pour que ce texte ne soit pas proposé au vote des députés le 8 juin prochain. Si ce scénario se confirmait, est-ce que vous croyez que les Français vont se passionner pour ce énième épisode parlementaire ?
Je ne crois pas qu'il s'agisse de se passionner pour un épisode parlementaire.
Je voulais dire par là, au fond, est-ce que ça va remobiliser sur cette question des retraites ? Ou est-ce que, pour les Français qui d'une certaine manière s'attendaient, les sondages le disaient, tout en étant hostiles très majoritairement à cette réforme, s'attendaient à ce que finalement elle soit mise en œuvre. Mais est-ce que vous pensez que ça peut les remobiliser ou est-ce qu'ils sont aujourd'hui résignés ?
J'espère qu'il va y avoir une mobilisation. Aujourd'hui, nous appelons un rassemblement aux Invalides à 13h pour pouvoir faire part de ce qui s'est passé en commission, puisque la commission a lieu aujourd'hui. Il y a l'appel à mobilisation de l'intersyndicale le 6 juin, deux jours avant, on espère, l'examen en séance. Et je pense qu'il y a encore toutes les raisons pour se mobiliser, exprimer sa désapprobation du comportement du gouvernement. Et je pense que surtout, c'est le fonctionnement même des institutions qui est très fortement contesté et qui devient de plus en plus illégitime avec la manière dont le pouvoir macroniste les instrumentalise et foule aux pieds des principes de base de la démocratie parlementaire. Donc je crois tout cela, à la fois le contenu de cette réforme des retraites et l'enjeu de l'abroger la nécessité de réagir pour défendre en fait le fonctionnement démocratique de notre pays devrait, j'espère, être des raisons suffisantes pour que la mobilisation soit à nouveau aussi importante qu'elle a été au cours des derniers mois.
Dans le processus parlementaire, quand bien même cette proposition de loi serait soumise au vote et adoptée le 8 juin prochain. Ensuite, elle serait, selon toute vraisemblance, rejetée au Sénat. Donc, ce que recherchent les partisans de cette proposition de loi, c'est quoi ? C'est le symbole d'une Assemblée nationale qui voterait l'abrogation de la réforme des retraites ?
Non, pas simplement, parce que, vous le savez, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. La navette parlementaire, l'aller-retour entre Parlement, l'Assemblée et le Sénat, permettrait que ça revienne en dernière lecture et que ce soit l'Assemblée qui se prononce, et on espère qu'elle pourrait se prononcer à nouveau pour l'abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite. Et tout ça serait possible justement parce que à la fois il y a un niveau de rejet de cette réforme qui reste extrêmement important, extrêmement majoritaire dans la population, nous espérons que l'agitation populaire permanente fasse en sorte que ce que Emmanuel Macron pensait être des jours d'apaisement jusqu'au 14 juillet, en fait, soit des jours de colère sociale et populaire, d'action symbolique, de blocage, de grève, et ce maintien du rapport de force sociale, je pense, peut à terme amener à ce que le gouvernement recule et que la loi soit abrogée, soit par l'acte parlementaire qu'on espère qui s'exprimera sur le texte transpartisan, soit que en fait ils se rendent compte enfin, au bout de presque 6 mois, que cette réforme est une folie démocratique, sociale, dans tous les sens de terme.
Le ministre de l'Action et des Comptes Publics a présenté hier une série de mesures destinées à lutter contre la fraude sociale. Est-ce que vous partagez cette volonté de mettre un terme aux abus du système de solidarité ?
je ne partage pas les annonces, les attendus et surtout la méthode du gouvernement qui consiste en fait à viser d'abord les plus vulnérables et précaires en extrapolant sur des situations qui sont sans commune mesure avec le vrai problème de la fraude dans notre pays, c'est-à-dire la fraude fiscale. Il reconnaît lui-même...
Et ce qui est quand même, les deux fronts.
Il est, oui, mais entre un problème qui est estimé à moins de 10 milliards et un problème qui est estimé à près de 100 milliards, je pense que...
Les chiffres varient énormément sur la fraude fiscale.
Oui,
100 milliards, c'est vraiment
la
fourchette... ultra maximale.
C'est entre 80 et 100, on va dire. Allez, on vous dit 60 milliards. Oui. Mais vous voyez bien qu'il y a quand même un décalage entre les deux. Oui. Et puis quand on parle de fraude sociale, encore une fois, même le ministre le reconnaît, c'est que l'essentiel, c'est de la surdéclaration de médecins ou de la sous-déclaration des employeurs. Alors que l'essentiel de son propos vise les bénéficiaires, qui sont très... minoritaire dans ce qu'on appelle la fraude sociale. Et quand on regarde cette fraude sociale-là, il y a du droit à l'erreur que le gouvernement n'applique pas sur les bénéficiaires de droits sociaux, mais est très complaisant pour les fraudeurs fiscaux de haut vol. Et il y a tout un ensemble de difficultés qui expliquent, y compris pourquoi des bénéficiaires vont avoir des prestations indues. Bref, tout cela, bien sûr qu'il faut améliorer, y compris le système, pour permettre que, notamment, le non-recours au droit, qui est bien plus important que la dite fraude des bénéficiaires soit moins important, mais vous voyez bien que l'attention mise et les priorités du gouvernement ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Dans le même temps, je vais juste rappeler ça aux auditeurs, il a diminué les moyens de la Direction générale des finances publiques pour s'attaquer à la fraude fiscale. Donc on voit bien que c'est une stratégie pour viser et stigmatiser et trouver des boucs émissaires en passant sur le vrai problème de fond, c'est-à-dire... l'évasion, l'optimisation fiscale.
Le président de la République n'a manifestement pas trouvé très pertinent les propos d'Elisabeth Borne, qui avait estimé dimanche que le Rassemblement national était un parti héritier de Pétain. Il l'a dit hier matin en Conseil des ministres, il faut combattre le Rassemblement national par le concret, le réel, a-t-il dit, et non pas en utilisant des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus. Comment vous interprétez ce qu'on pourrait assimiler à une forme de rappel à l'ordre ?
Je trouve que c'est très grave et ça confirme que la stratégie d'Emmanuel Macron est la stratégie du pire. C'est pas des mots, c'est une réalité historique, c'est un fait que le Rassemblement national a été fondé à l'époque il s'appelait le Front National par un ancien milicien de Vichy, par un ancien Waffen-SS. Donc en fait, c'est littéralement la réalité historique. Et par son propos, le président de la République minimise tout cela. C'est pas une question de communication, c'est une question de comment est-ce qu'on combat l'extrême droite en rappelant d'où elle vient, en rappelant quelle est son essence. Et je remarque que il y a quelques mois, quand la première ministre là a fait, je pense, un grave faux pas politique en s'attaquant à la Ligue des droits de l'homme, on n'a pas entendu le président de la République rappeler à quel point la LDH était une institution importante. Donc il y a un choix.
Signifie-t-elle nécessairement qu'il y ait une filiation idéologique, par exemple aujourd'hui, entre Marine Le Pen et le maréchal Pétain?
Il y a une filiation qui est la filiation de l'extrême droite française. Donc il y a des thématiques qui sont portées par cette extrême droite très conséquente. Donc ça, c'est étudié, c'est scientifique. Mais le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, la Macronie a choisi de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite et à la normaliser. Et on a entendu ça dans les propos du président.
Merci Daniel Obono. Bonne journée.